Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans 1 Timothée chapitre 2 et commençons à lire dans le verset 9 où nous avons ces instructions de la part de l'apôtre Paul, mais nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'auteur de ces paroles. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors prions avant de continuer. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous rassembler ensemble, quoique séparés par une grande distance à travers le monde. Merci pour cette technologie qui nous permet de passer ces moments ensemble et d'approfondir notre connaissance de ta parole par ta grâce. Je te prie de diriger mes pensées et de diriger aussi les pensées de ceux qui écoutent afin que tu nous donnes une véritable connaissance de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et que tu nous donnes ta grâce de vivre selon les préceptes, selon ce que nous voyons révélé dans ta parole au sujet de Christ. Alors que tu bénisses cette étude à ta gloire. C'est à ta gloire seule et non pas à nous. Et pour cela, nous demandons ta présence. Dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, ayant lu ce passage de 1 Timothée chapitre 2, du verset 9 au verset 15, maintenant, je voudrais faire des commentaires là-dessus parce que c'est un sujet qui est vraiment méconnu, surtout dans des milieux religieux. Et quand on lit les instructions ici au sujet des rôles de la femme, et on voit ce qui se passe dans les assemblées, il y a une grande contradiction. Surtout dans la partie où, dans le verset 11, l'apôtre Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je dirais une des caractéristiques de la fausse religion, c'est que souvent ce sont des femmes qui prennent le devant. Et je comprends bien ce que beaucoup pensent. Ils disent, oui, mais s'il n'y a pas d'homme qui puisse diriger, alors il faut laisser les femmes diriger. Mais cela est contraire à ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Surtout dans le verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et je comprends aussi ce que beaucoup disent. Ils disent, oui, mais nous sommes dans une nouvelle époque. Et cela a été au temps de Paul, mais aujourd'hui, le temps a changé. Là encore, il faut dire que la vérité, ce qui était vrai au temps de l'apôtre Paul, est aussi vrai aujourd'hui, parce que la parole ne change pas. C'est les hommes qui changent, c'est les hommes qui essayent de prendre la parole et l'interpréter d'une manière privée. Mais nous ne devons pas faire cela. Alors, quel est l'enseignement que nous avons au sujet des femmes et leur rôle. Et il s'agit surtout dans l'assemblée. Alors, il ne faut pas oublier le contexte parce que dans le verset 8, nous voyons que c'est le devoir des hommes de prendre la dirigeance dans l'assemblée, non seulement dans la prédication, mais dans la prière. Quand il s'agit de prier en public, de prier dans l'assemblée, verset 8 est clair, 1 Timothée 2, 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Et si quelqu'un demande, mais pourquoi ce devoir est donné aux hommes, nous voyons la réponse dans le verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est Dieu lui-même qui a établi cette hiérarchie depuis la création. Quand il a créé l'homme, il n'a pas d'abord créé la femme, et ensuite l'homme. Et dans cela, c'est un miracle, en quelque sorte, parce que aujourd'hui, sans la femme, il n'y a pas de Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'être humain qui puisse entrer dans le monde. C'est par le canal de la femme. Mais au départ, Dieu a créé l'homme et ensuite, de son côté, il a créé la femme. Et ensuite, maintenant, cet ordre devait et doit être retenu, car Adam était formé le premier. Vous savez que la création, surtout de l'homme, est en quelque sorte une image de Christ. Adam était le premier homme créé, mais la Bible parle de Christ comme étant le dernier Adam. Et comme le premier Adam avait aussi sa femme qui a été créée du côté d'Adam, ainsi l'Église. Il y a l'Église. Il s'agit des pécheurs que Dieu, le Père, depuis l'éternité, a choisi et a donné à son Fils. Cette Église est tirée, si vous voulez, du côté du Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu sa mort afin de racheter son épouse et ensuite nous avons l'Église. Et de la manière que Dieu, au début, a fait endormir Adam pour tirer de son côté sa femme, c'est représentant de la mort de Christ. Il a fallu la mort de Christ pour que cette épouse de Christ soit créée et que nous avons ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Église de Christ, l'Église de Dieu. Et de la même manière, une fois réveillée, le Seigneur a fait venir Ève à Adam et les deux se sont joints, sont unis. C'est de la même manière que Dieu attire aujourd'hui chaque membre de son Église, chaque membre de ce que Christ a racheté. Il attire chacun en son temps à Christ. Alors, il y a beaucoup de parallèles dans cet enseignement. Et pour cela, nous voyons cet ordre qui est établi ici et qui continue. On ne peut pas changer cet ordre. Alors, comme dans le verset 8, la responsabilité est donnée aux hommes de diriger l'assemblée et aussi de prendre la parole dans l'assemblée et de prier dans l'assemblée. C'est la responsabilité des hommes et non pas simplement un homme. Il faut que ce soit des hommes spirituels. Il faut que ce soit des hommes qui sont nés de nouveau et à qui Dieu a donné cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ. À part cela, si c'est un homme simplement qui essaie de diriger mais qui n'a aucune connaissance de la parole de Dieu ou de Christ, ce n'est pas sa place de diriger une assemblée. Alors, il y a beaucoup là qu'il nous faut apprendre et surtout faire attention. Je sais que il y a des organisations qui sont là depuis longtemps et puisqu'il y a un bâtiment, puisqu'il y a des gens qui viennent, il faut toujours un dirigeant. Et quand on considère ce qui se passe dans ces milieux-là, c'est vraiment quelque chose qui ne devait jamais se faire. Mais puisque des hommes essayent simplement de maintenir une organisation une fois commencée, alors ils supposent qu'ils font ça avec la bénédiction de Dieu. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup d'assemblées qu'on pourrait fermer les portes aujourd'hui et ça n'empêchera nulle part l'œuvre de Dieu, parce que Dieu n'y est pas. Là où Christ n'est pas fidèlement prêché, là où les membres ne sont pas régénérés par l'Esprit de Dieu et que ce qui se passe au nom de l'adoration n'est pas fondé sur la parole de Dieu, alors c'est une fausse adoration. Et ça vaut mieux fermer les portes. Alors, nous sommes ici pour étudier, apprendre la parole de Dieu, et si nous sommes dans une telle situation où l'assemblée ne suit pas ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu, mieux vaut ne pas fréquenter cette assemblée, mieux vaut se retirer. Je dis qu'il y a beaucoup qui essayent de continuer dans ces milieux-là, même si l'évangile n'est pas prêché, et ils pensent pouvoir aider ou bien avoir une certaine influence dans ces milieux. Mais je dirais, tu peux prendre une pomme, une bonne pomme, et mettre cette pomme au milieu d'autres pommes pourries, mais la bonne pomme ne peut pas prendre ce qui est pourri et remettre en état. Et je dirais que c'est comme ça. Si quelqu'un est dans un milieu, vous ne pourrez pas changer ce qui est. Et le fait de continuer à fréquenter ce milieu, quoique l'Évangile n'est pas prêché, ce n'est pas de cette manière que Dieu ordonne dans ses Écritures. Il dit simplement de se retirer, de sortir du milieu, de ces lieux-là où l'Évangile n'est pas suivi, l'Évangile n'est pas prêché, où la parole n'est pas respectée, parce que c'est une évidence que Dieu n'y est pas. Alors si nous voulons avoir la présence de Dieu, c'est pourquoi Christ a dit là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pourquoi certaines familles peuvent se réunir chez eux. S'il n'y a pas d'autre lieu, autre assemblée où l'évangile est prêché, ce n'est pas simplement une question, comme les gens disent, d'aller à l'église. Même cette phrase-là n'est pas biblique, d'aller à l'église. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'assemblée des élus de Dieu, par sa grâce, qui se réunissent dans le but d'adorer Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Alors, si cette Bible que nous lisons est la parole, et c'est la parole, certainement, donc nous devons suivre ce qui est écrit. Alors, tout est fondé sur ce principe que nous voyons dans le verset 8, que c'est aux hommes de prendre la dirigeance de l'assemblée. Et non seulement dans l'enseignement, mais dans la prière en public, pour l'assemblée, pour la bénédiction du Seigneur, pour sa présence en tout ce qui se passe. Et quand c'est écrit là, priant en tout lieu, cela veut dire en tout lieu où les hommes et les femmes se rassemblent pour l'adoration, que les hommes prennent le devant en ce qui concerne la prière, et là encore, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il ne s'agit pas simplement de ces mains physiques. Il y a beaucoup qui lisent ça et disent, ah voilà, on peut élever les mains lorsqu'on prie. Mais ici, c'est dans un sens au figuré. C'est en élevant des mains pures, c'est le symbole d'un cœur élevé envers Dieu. Et des mains pures, il ne s'agit pas des mains physiques, mais plutôt d'un cœur ou bien d'une prière qui n'a pas de mauvaises intentions. Vous savez, souvent, j'écoute certains en train de prier et on dirait qu'ils parlent aux hommes. Ils sont en train de dénoncer celui-ci ou celui-là. Souvent, c'est dans un air de colère. Mais ici, Paul donne cette instruction à Timothée que ça soit sans colère ni mauvaise pensée. Une véritable prière est une prière qui est inspirée du Saint-Esprit, parce que nous ne savons pas prier comme il nous faut. Paul a indiqué cela dans Romains chapitre 8 et le verset 26. Voici une véritable prière. Ce n'est pas seulement la répétition de certains mots. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui est la prière, mais ce qui vient du cœur. Dans Romains 8, le verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, c'est la véritable prière. Et notez, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dans certains milieux, les gens se vantent du fait qu'ils élèvent la voix, ils élèvent les mains, ils font beaucoup de bruit. Ce qui sort de leur bouche, ils appellent ça des langues inconnues. Mais ça, ce n'est pas la prière. Les soupirs inexprimables, il s'agit des pensées du cœur. Et si cela n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la prière. Alors c'est pourquoi, lorsque on demande à quelqu'un de nous diriger dans la prière, ça doit être des hommes. Surtout, on ne demande pas à la femme de faire cela. C'est la responsabilité des hommes. Et s'il n'y a pas d'hommes capables de diriger l'assemblée dans la prière, mieux vaut ne pas prier publiquement. Mieux vaut garder le silence. Alors, il y a beaucoup là pour nous de considérer. Alors, ayant dit cela, maintenant nous voyons l'enseignement concernant les femmes. Et ce qui est sûr, numéro un, c'est que les femmes ne doivent pas diriger l'assemblée ou prendre le devant dans le lieu du culte. Ça, ce n'est pas à la femme. Surtout en ce qui concerne la manière de la femme même de s'habiller, que ce soit en toute modestie. Il y a certains milieux où, lorsque c'est dimanche, les femmes surtout aiment faire sortir leur meilleur habit et s'habiller pour impressionner. Et on sait souvent qu'elles sont en train d'aller dans leur lieu de culte parce que c'est le dimanche, mais aussi bien habillées. Ils vont pour impressionner. Alors c'est dans ce sens que Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Il s'agit là non seulement dans l'habillement matériel ou physique, mais surtout du cœur, vêtu spirituellement d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Cela veut dire que les femmes viennent à l'assemblée pour apprendre, pour être en soumission à la parole de Dieu et d'être dirigées par l'Esprit de Dieu dans l'adoration et dans l'écoute de la parole de Dieu. Alors souvent, ce n'est pas le cas dans certains milieux où il y a un habillement excessif et un arrangement surtout des cheveux. Ici, c'est écrit, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Là encore, on doit garder ça toujours dans son contexte parce que il y a certains qui enseignent que la femme ne doit jamais porter de bijoux. Mais ce n'est pas l'enseignement. Ici, c'est dans le contexte de l'adoration, que ça ne soit pas là le but d'une femme pour aller, comme on dit, aller à l'église. Là encore, ce n'est pas une expression biblique. Aller à l'adoration dans le but d'être vue. Et vous savez comme moi, il y a certaines femmes qui peuvent provoquer d'autres à la jalousie, parce que certaines femmes peut-être sont mariées à des hommes riches, alors elles ont la capacité de porter les meilleurs habits, les meilleurs bijoux, les meilleures tresses, et voilà encore peut-être une pauvre femme qui n'a pas cette habitude ou bien capacité qui arrive au lieu de culte et ça peut provoquer la jalousie. Alors c'est pourquoi Paul dit ici que ça ne soit pas ainsi, que toutes les femmes se vêtent en modestie et pudeur dans le but de venir, comme nous voyons plus tard, écouter et apprendre dans une soumission totale. Je ne veux pas dire que c'est seulement avec des femmes qui a des problèmes dans l'assemblée, mais la manière que les femmes sont dans leur dépravation, c'est-à-dire depuis la chute d'Adam, c'est toujours dans le cœur de la femme de prendre le devant et de désirer avoir l'attention des autres et de provoquer à la jalousie. Alors c'est pour ça que Paul dit que les femmes gardent le silence. Cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas converser avec d'autres dans l'assemblée, mais c'est dans le sens toujours de ne pas être à la base des troubles ou des causeries qui peuvent aussi provoquer davantage des divisions. Alors je pense que c'est le sens là de verset 9, et c'est expliqué surtout dans le verset 10, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Et là encore, on se demande quelle est une bonne œuvre. Une bonne œuvre ne parvient pas de nous, parce que nous avons des cœurs pécheurs, mais une bonne œuvre, c'est une œuvre de grâce, c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit qui attire un cœur pécheur envers Christ et qui regarde à Christ seul pour le salut, mais aussi pour la vie, en tout ce qui concerne la vie. La sagesse, le savoir-vivre dans la grâce vient de Dieu. Ça, c'est une bonne œuvre, parce que c'est Dieu qui l'a produit. Alors, c'est pourquoi nous lisons, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est intéressant la manière que c'est écrit. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nous ne pouvons pas savoir, en réalité, qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Parce que, étant des hommes, et nous-mêmes aveuglés par nos péchés, étant dans un état de pécheur, nous ne devons pas nous fier aux apparences. Parce qu'il y en a qui peuvent vraiment prétendre, comme c'est écrit ici, avoir une profession de servir Dieu, mais Dieu seul connaît le cœur, Dieu seul connaît qui sont à lui. C'est pourquoi souvent, dans une assemblée, on peut avoir
quelqu'un qui, pendant un certain temps, semble vraiment être attaché à la parole de Dieu, et les gens l'apprécient, mais après un certain temps, on voit ces personnes-là s'en aller dans le monde, ou bien leur vrai caractère est révélé, et là, ça devient évident qu'ils n'étaient pas vraiment enfants de Dieu. Je pense à l'exemple de Judas Iscariot. Pendant tout le temps qu'il était avec Christ, et c'est Christ qui l'a appelé, et pendant tout le temps qu'il était avec les disciples, il n'y avait aucun disciple qui savait d'avance que Judas Iscariote était en réalité un fils de perdition. Christ le savait, et c'est pour ça qu'il l'a appelé, pour être celui qui allait trahir le Seigneur au dernier moment. Mais jusqu'à ce moment-là, les disciples ne savaient pas que Judas était ce fils de perdition. De toute apparence, il était exactement comme les autres. Et c'est souvent comme ça, même dans un champ. Pendant un certain temps, lorsque le blé pousse, à côté, il y a l'ivraie. Et pour un certain temps, les deux se ressemblent. Mais en fin de compte, c'est le Seigneur qui distingue le blé de l'ivraie. Alors, ayant dit cela, quand même, il y a un comportement qui convient à des femmes qui font confession de servir Dieu. Et c'est par ici que nous voyons le comportement en ce qui suit. Parce que dans certains milieux, le comportement d'une femme dans un assemblée, c'est contraire à ce que nous lisons. La femme prend le devant, la femme fait entendre sa voix, peut-être que c'est une femme qui chante bien, les gens l'apprécient. Tout cela, c'est contraire à ce que nous voyons dans le verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence. Vous voyez, c'est ça le rôle de la femme, d'écouter. Si on retourne dans Genèse chapitre 3, nous voyons que c'est dans cela que la femme a péché au début. Et on peut se demander, mais si c'est la femme qui a péché, pourquoi la Bible dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde? C'est parce que cet ordre de prendre la responsabilité a été donné au début à Adam. Et lorsque nous lisons que Ève, ayant pris le devant et en parlant avec le serpent, qui était Satan lui-même, Adam s'est tu. Il ne s'est pas mis au milieu pour dire au serpent de se taire. Il s'est mis derrière pour observer et laisser cela dérouler. Alors dans cela, Adam a péché. Parce que cet ordre a été donné à Adam de ne pas manger d'autres arbres, le fruit d'autres arbres que celui de l'arbre de vie. Et nous voyons surtout dans le verset 6, la femme vit. Enfin, même avant verset 6, dans le verset 1 à 5, nous voyons que le serpent, qui était rusé, c'est écrit, il dit à la femme, dans le verset 1, Genèse 3, 1, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, quand est-ce que le péché est entré dans le monde? C'est au moment où Adam a gardé le silence. Il y a beaucoup qui disent, c'est au moment où ils ont pris le fruit et ils ont mangé, mais déjà le péché est entré parce que Adam a gardé le silence. C'était lui qui était établi comme responsable, mais il n'a rien dit. Au contraire, c'est la femme ici qui engage le serpent. Et dans le verset 2, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, toujours c'est la femme qui donne la parole. Ce n'était pas son rôle. Elle devait garder le silence. Mais le péché, c'est que Adam ne gardait pas le silence. Vous voyez? Quand on lit dans le Nouveau Testament, surtout dans Jacques, chapitre 1, le péché est conçu dans le cœur. Ce n'est pas quand ça sort de la bouche ou bien dans l'action que c'est le péché, c'est dans le cœur. Alors déjà, le péché est entré dans le monde par le silence d'Adam. Il ne disait rien. Seulement, c'est le contraire. Il écoutait sa femme. Alors, le serpent dit à la femme. Vous voyez, il y a beaucoup qui lisent ça et ils n'ont jamais perçu le péché là. Vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux
s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et voilà le problème, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais encore, par le silence d'Adam, maintenant la femme a chuté. Et c'est écrit qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Mais notez bien, Adam n'était pas loin. Il était à côté. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, quand Dieu maintenant est venu et il a rendu son jugement, surtout contre le serpent et contre l'homme et la femme, il y a le jugement de la femme que nous devons considérer ici. Et c'est dans le verset 16 du chapitre 3, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Quand c'est écrit, tes désirs se porteront vers ton mari, il ne s'agit pas là des désirs d'amour, mais il dit à la femme, dans la chute, tu auras toujours des désirs de dominer ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu a rétabli l'ordre. Que ce soit l'homme d'abord et la femme soumis à l'homme. Ça, c'est l'ordre. Et peut-être vous pouvez demander, mais pourquoi? Parce qu'encore, c'est une image, c'est symbolique de l'ordre de Dieu que Dieu a établi dans l'Église. Qu'il y a un seul qui est à la tête, qui est Christ, et tous les membres sont soumis au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons cela dans d'autres passages de la Bible. Ce n'est pas seulement dans ces paroles de Paul à Timothée, mais surtout dans 1 Corinthiens chapitre 11 et à partir de verset 2, c'est écrit, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Je sais que ce que je suis en train d'enseigner maintenant n'est pas populaire dans les milieux religieux. Au contraire, si vous êtes dans un tel milieu où on laisse les femmes faire ce qu'elles veulent et vous vous levez pour prendre ces enseignements, vous aurez d'opposition. Les gens s'opposent parce que toute l'organisation est basée sur une fausse doctrine. Mais nous devons tenir ferme, comme Paul dit à Timothée, à ces instructions telles que nous les avons reçues. Alors, il dit, je veux cependant, dans le verset 3, que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors ça c'est l'ordre que Dieu lui-même a établi dans son assemblée. C'est pourquoi il a rétabli ça, même depuis le début, avant la chute d'Adam et après la chute. Un autre passage, c'est dans Éphésiens chapitre 5. En ce qui concerne le rôle du mari et la femme. Il dit dans Éphésiens 5, le verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Alors, ce qui est vrai dans l'assemblée, c'est aussi vrai dans le foyer. « Car le mari est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Alors, c'est le lien entre l'ordre établi dès la création du monde et ce qui suit. Alors revenons encore dans notre passage dans 1 Timothée chapitre 2 pour voir encore l'instruction donnée ici au sujet de la femme. Dans les versets 11 et 12, la manière que la femme vit sa profession en servant Dieu, c'est une soumission totale à l'instruction de l'Évangile. Là encore, si une femme est dans une assemblée où l'Évangile n'est pas prêché, mieux vaut se retirer. Il n'y a aucun bien là pour cette femme. Si c'est une question d'écouter, et c'est vrai pour n'importe qui, il faut écouter la vérité. Nous ne sommes pas appelés à écouter le mensonge, mais la vérité. Mais dans un milieu, dans une assemblée où la parole est prêchée, c'est le devoir de la femme d'écouter l'instruction en silence et noter avec une entière soumission. Ce n'est pas une question simplement d'être
soumise à un homme, mais à la parole, à l'instruction de la parole. Égard à l'homme qui veut simplement soumettre les membres de l'assemblée à lui. Non, nous ne sommes pas l'autorité, c'est la parole qui est l'autorité. Alors lorsque nous prêchons, c'est dans le but que l'Esprit agisse dans les cœurs de nos auditeurs, afin que ces cœurs-là soient tournés vers Christ et ces cœurs soient soumis à la parole qui est Christ. Alors, c'est dans ce sens que nous devons diriger l'assemblée. Cela ne veut pas dire, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, mais si nous sommes à la maison avec nos femmes, est-ce que on ne peut pas demander à la femme peut-être de prier avec nous? Ça, dans ce contexte, c'est toujours le mari qui dirige. Voyez, mais dans l'assemblée, ce que nous sommes en train de voir ici, il ne s'agit pas d'une vie privée à la maison, mais dans l'assemblée, dans l'ordre que nous avons de Dieu pour la dirigeance de l'assemblée, on ne doit pas entendre la voix des femmes dans l'instruction ou dans la prière. Je sais qu'il y a certains qui sont organisés d'une manière à laisser les femmes enseigner les enfants. Ils ont ce qu'ils appellent école de dimanche. Et voilà encore, je vais peut-être choquer certains qui m'entendent, mais on ne voit nulle part dans la Bible des écoles de dimanche. Il n'y a pas dans la Bible cet ordre pour établir des écoles de dimanche. Tout ce que nous voyons dans la Bible, c'est lorsque l'Église est rassemblée, c'est ensemble. Hommes, femmes, enfants, tout le monde ensemble. L'Église n'est pas divisée en départements. Vous savez que les écoles de dimanche ont débuté dans les années 1800 en Angleterre, lorsqu'il y avait à l'époque beaucoup d'enfants qui couraient dans les rues et qui étaient des orphelins à cause des maladies et autres qui ont renversé le pays à l'époque. Alors, c'était les églises qui ont pris la charge de faire entrer ces enfants au lieu de les laisser courir et commencer à leur donner une éducation, une formation, afin de les aider à lire, etc. Et c'est dans ce sens que les écoles, c'est pourquoi c'est appelé une école de dimanche, ont débuté. Vous savez que d'autres peuvent peut-être entendre cela et dire, oui, mais c'était une bonne chose que l'Église ait pris ses responsabilités. Mais une véritable Église, ça, ce n'est pas notre responsabilité. Nous ne sommes pas chargés de commencer des programmes sociaux pour aider les gens qui sont dans la pauvreté ou bien commencer des orphelinats, de faire tout genre de choses. Même Christ, lorsqu'on lui parlait de ceux qui étaient pauvres à côté, il a dit, les pauvres seront toujours avec vous. Sa mission, Christ, en venant dans ce monde, n'était pas de sauver des gens de leur pauvreté, mais de sauver son peuple de ses péchés. Alors, c'est pourquoi le but d'une église, d'une assemblée, d'un prédicateur vrai, c'est toujours prêcher l'évangile. Et que ceux qui viennent pour écouter, non seulement les femmes, mais les hommes. Même parmi les hommes, c'est pas à tous les hommes de prendre le devant. Ils doivent aussi apprendre dans le silence. À travers les années, j'ai eu des occasions où certains hommes circulent et ils entrent dans des milieux, ils cherchent une diligence, ils cherchent quelqu'un ou quelques-uns d'apprécier leur don, soi-disant. Alors, ils entrent dans ces milieux et ils forcent, si vous voulez, leur présence sur les autres, ils demandent, ils exigent à avoir l'occasion de prêcher ou bien de lire ou bien de diriger. Et si vous ne leur donnez pas cette occasion, bon, ils se fâchent et ils s'en vont. Mais je dirais, mieux vaut qu'ils s'en aillent, parce que parmi ceux qui dirigent, il faut cette humilité, cette modestie aussi dans la diligence. Quand je dirige ici, ce n'est pas dans l'orgueil, ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres. Je ne suis qu'un pécheur, sauvé par la grâce de Dieu, à qui Dieu a donné cette tâche de prêcher l'évangile. Alors, si on n'a pas d'école de dimanche, on n'a pas de problème alors en ce qui concerne l'enseignement des enfants. Les enfants doivent apprendre dans l'assemblée de la même manière que les autres, et cela à travers la prédication de l'évangile. Ici, dans notre assemblée, nous n'avons pas de programme pour les jeunes ou pour les enfants. Les enfants viennent, ils s'assoient à côté de leurs parents, avec leurs parents. Ils suivent au cours du temps de l'adoration avec les adultes, et c'est par là qu'ils apprennent aussi à garder le silence et à écouter la parole, dans l'espoir que Dieu, s'ils sont élus de Dieu. Il ne faut pas imaginer que, puisqu'un enfant est né dans une famille chrétienne, que alors c'est un élu de Dieu. Non, c'est Dieu qui fait son choix. Mais quand même, ils doivent s'asseoir et écouter comme le reste, parce que si quelqu'un serait converti, ça va être par l'écoute de l'évangile prêché. C'est en écoutant cet évangile que Dieu puisse ouvrir le cœur. Alors, c'est pourquoi Paul dit avec exclamation dans le verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Là encore, c'est son rôle, puisque c'est l'ordre que Dieu a établi depuis le début. Et nous avons déjà vu ça dans le verset 13, « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. » Alors, cela peut surprendre certains, mais cela veut dire que Adam savait ce qu'il faisait. C'est pourquoi, quand je lisais tout à l'heure dans Genèse chapitre 3, même dans le silence, Adam a déjà péché. Parce que Dieu, lui, a donné cet ordre de ne pas manger d'autres arbres que l'arbre de la vie. Mais dans son silence, en gardant le silence, il a péché. Nous savons que si vous voyez quelqu'un en train de commettre un crime et vous ne dites rien, donc vous participez à ce crime, parce que vous gardez le silence, sachant que quelque chose de mauvais se passe. Alors, Adam a péché. C'est par un seul homme que le péché est rentré dans le monde. Et c'est pourquoi Dieu, à travers Paul, ici dit, Adam n'a pas été séduit. Mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, à qui la responsabilité pour la dirigeance de l'Assemblée? C'est aux hommes. Et ce que les hommes laissent faire dans une Assemblée, cette responsabilité, cette culpabilité, ça rend les autres coupables qui les suivent. Vous voyez? Alors, il y a ici une représentation au figuré, parce que comme par un seul homme, toute une race a été plongée dans le péché, en ce qui concerne le salut, ce n'est pas par une décision personnelle ou individuelle que nous serons sauvés, mais c'est par l'œuvre de notre représentant, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Cette image que nous avons ici du salut. Comme par un seul homme, beaucoup ont été rendus coupables, ainsi par un seul homme, son obéissance, celle de Christ, toute une race est maintenant déclarée juste devant Dieu. Ça, c'est l'ordre du salut que Dieu a établi. Et c'est écrit ici par le silence d'Adam, qui n'a pas été séduit, la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Tout ce que nous recevons de notre père Adam, c'est la culpabilité. Mais si Christ est mort pour nous, tout ce que nous recevons de lui, c'est la justification. C'est d'être déclaré juste devant un Dieu saint par son œuvre qu'il a accomplie. Et voilà maintenant la leçon. De la même manière que c'était écrit que la femme garde le silence, qu'elle écoute avec une entière soumission, cela veut dire ce n'est pas dans ses mains ou bien par ses actions qu'elle doit agir en quoi que ce soit. Ça, c'est une image même de la grâce de Dieu. Comment est-ce que Dieu sauve son peuple? C'est par l'œuvre de Christ. Alors, si nous sommes l'épouse de Christ, quel est notre rôle? Gardez le silence. Nous ne sommes pas en train de courir par-ci, par-là, en train d'impressionner Dieu par nos œuvres et faire quoi que ce soit devant Dieu pour mériter le salut. Non, nous gardons le silence. Nous nous reposons dans l'œuvre de Christ seul. Ouais, alors, ces versets vont au-delà d'avoir simplement un enseignement sur le rôle de la femme dans l'Assemblée. Ça démontre l'attitude que l'épouse de Christ, son Église, a par rapport à lui et son œuvre. C'est Christ qui a tout fait. Exactement comme Dieu a donné toute la responsabilité à Adam. C'est à Christ que Dieu a donné toute la responsabilité pour sa femme, l'Église. Alors, nous avons non seulement le devoir, je n'aime même pas ce mot, nous avons le privilège, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'épouse de Christ, rachetée par son sang, toute la responsabilité du salut se repose sur lui, mais nous avons ce privilège de garder le silence et de nous reposer en lui, contrairement à ce que nous voyons dans les milieux où les œuvres sont prêchées et il faut être toujours actif, en train de faire quoi que ce soit.
Alors que nous apprenons de cela. Alors, dans le verset 15, pour terminer, nous voyons, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Vous savez que le mot sauver est utilisé dans plusieurs sens dans la Bible. Ici, il ne s'agit pas d'être sauvé dans le sens du salut éternel, mais sauvé ou délivré. Cela veut dire, si la femme n'a pas un rôle dans l'assemblée, néanmoins dans le foyer, elle a cette responsabilité d'être un exemple pour les enfants, de vivre dans le foyer devant ses enfants, démontrer ce qui est la grâce de Dieu pour ses enfants. Et c'est là la responsabilité que Dieu a donnée à ceux qui lui appartiennent. C'est écrit, si elle persévère avec modestie dans la foi. Il ne s'agit pas de toute femme ici, toutes les femmes, mais des femmes qui ont été elles-mêmes sauvées par la grâce de Dieu. Maintenant, en devenant mère, elle démontre cette même soumission à Christ, à ses enfants, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Et ça démontre encore la même manière que nous sommes sauvés si nous sommes de l'Église de Christ. C'est par son œuvre. Et si nous avons une influence quelconque dans le monde envers d'autres, que le Seigneur peut-être attire à lui-même à travers notre témoignage, que ce soit toujours dans la modestie, dans la soumission de la foi, je ne peux jamais prendre la gloire, même si quelqu'un est converti à travers un message que je prêche, je ne dois jamais prendre la gloire. Je suis comme cette femme, devenant mère, parce qu'il y a à travers le monde aujourd'hui beaucoup qui peuvent peut-être dire qu'ils ont entendu l'évangile de ma bouche, mais je dois toujours garder le silence, même dans ça. Non pas à moi la gloire, non pas à vous la gloire, mais à Christ la gloire, et que nous persévérons avec cette modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. Cette sainteté, c'est d'être mise à part pour Christ. Cette sainteté, c'est cette justice que Christ a accomplie à notre égard, si nous sommes à lui. Et nous vivons toujours dans la lumière de cette justice-là. Alors, je vais m'arrêter là. Peut-être que quelques-uns auront une parole à ajouter. On va commencer. Gardons l'ordre, parce que si nous ouvrons les micros, ça fait peut-être beaucoup de bruit, mais je vais simplement demander si le frère Koulibaly, tu as quelque chose à dire à la suite de ce que nous venons d'entendre, et puis on peut peut-être donner aussi la parole à Aurélien, et puis à Pessy, pour terminer.
Bien, bien. Si vous voulez, je veux que les gens vous bénissent.
Oui, oui.
Je voudrais parler sur trois points, alors, qui m'ont beaucoup plu. Bon, donc j'ai encore besoin encore un peu plus d'éclaircissement. C'est-à-dire, quand on dit que de lever les mains pures en priant, avec une bonne pensée. Les mains pures, comment un pécheur peut-il avoir les mains pures? Moi, je pense que le pécheur, c'est en se confessant et à cause du sang de Jésus-Christ que nous pouvons avoir les mains pures. Parce qu'il y a aussi les mains souillées qui se lèvent. Quelqu'un qui vole ou bien qui tue, qui se lève pour prier. Voilà pourquoi, quand on a parlé de mains pures, j'ai vraiment pensé beaucoup que et cela veut dire, et après une confession sincère, une repentance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et qui rend notre main pure. Et vraiment, aussi, du côté soupir, le soupir, quand on dit que des fois la prière peut se manifester, un soupir inexprimable, je pense que cela c'est vrai, parce que la prière c'est quoi? C'est un épanchement du cœur. C'est l'écoulement de notre tréfonds vers Dieu. Des fois le cœur veut exprimer quelque chose, alors qu'il n'est pas même pas parvenu à la bouche encore. Parce que le cœur est en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je vois que la prière est un défranchement du cœur et l'écoulement de ce que nous pouvons exprimer à un Dieu puissant, un Dieu souverain, alors des fois, tout ne peut pas se dire par la bouche, des fois, c'est vraiment avec ce soupir inexprimable. Alors, concernant le problème de l'habillement, en réalité, je vais vous dire que l'apôtre Paul, la véracité de ce message, la véracité de ce passage, alors,
oui, oui, on
vous me suivez?
Oui, oui.
Voilà, la véracité de ce message-là se voit dans notre siècle actuel. En réalité, je vous dis que quand tu rentres aujourd'hui dans les églises, Hein, tu es découragé par l'habillement des femmes. Ce que moi, je veux vraiment que nous sachions. Biologiquement même, l'homme est plus intuitif, plus instinctif, plus réactif et plus excitable que l'homme. Et voilà pourquoi, que la femme. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul s'adresse ainsi à la femme. Parce que la femme doit être modérée dans l'habillement. Compte tenu de toutes ces choses, la véracité vraiment de ce passage-là se sent actuellement aujourd'hui. Je vous dis que des fois, quand on rentre même dans l'église, avec des habillements qu'on appelle même habillement sexuel, on voit tout. Et je suis même découragé des fois de suivre le cours. Et je vous dis qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui attachent plus d'importance à l'habillement aujourd'hui que le message que le pasteur va prêcher. Alors constatez avec moi. Alors c'est sur ce côté-là vraiment que moi je voudrais que l'on en parle et que l'on voit. J'ai été succinct, sinon j'ai beaucoup de choses à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse.
Je pensais que tu as dit qu'il y avait trois points. Tu as parlé de...
Oui, les trois points, j'ai dit. Les mains pures, les soucis de l'esprit d'affirmable et les problèmes d'habillement.
Ok, les mains pures, la seule manière d'être purifié, ce n'est pas même par notre confession de péché, parce que si nous confessons nos péchés comme une base d'être purifié, même cette confession est faite dans le péché. Nous avons un mauvais cœur. La purification dont il parle, c'est d'être en Christ et d'être sanctifié par son sang, ce qui est notre privilège depuis la mort de Christ. Alors, il s'agit ici de ceux qui sont véritablement croyants, convertis par la grâce de Dieu, et qui, lorsqu'ils prient, ils sont dirigés par l'Esprit de Dieu, et non pas par un esprit charnel. Des soupirs dont on a parlé là, spirituels, sans colère, ni mauvaise pensée. Là encore, un dirigeant, celui qui dirige l'Assemblée, ne peut pas avoir des préjugés à ce qui concerne l'Assemblée. Comme en Afrique, peut-être plus qu'ici aux États-Unis, souvent il y a des gens de différentes langues, tribus, etc. Il y a déjà certaines jalousies et préjugés, et on ne peut pas avoir quelqu'un en train de se lever et prier qui favorise un groupe au-delà de l'autre. Ouais, c'est pas là que beaucoup de divisions et problèmes suscitent. Que ça soit un représentant, quelqu'un qui peut diriger l'Assemblée, étant un pécheur lui-même, sauvé par la grâce de Dieu, et qui prie pour une assemblée de pécheurs, qui parmi cette assemblée, il y a ceux qui appartiennent au Seigneur par son sang qu'ils ont racheté et déjà attirés par l'Esprit, mais il se peut qu'il y ait d'autres aussi qui sont encore dans les ténèbres, qui sont élus de Dieu, mais que l'Esprit n'a pas encore attiré à Christ, mais ils sont là, c'est Dieu qui les a amenés là pour écouter. Alors nous prions pour ceux qui sont perdus parmi nous, pour qui Christ a payé la dette. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'Assemblée qui sont nécessairement à Christ. Alors il faut avoir ce discernement-là lorsque nous prions. Alors je pense que ça c'est la somme. Mais je suis d'accord avec toi. La manière que les femmes s'habillent, l'habillement démontre le caractère d'une personne. Alors si une femme ou des femmes viennent et ne s'habillent pas dans la modestie, cela veut dire qui sont là et pour attirer l'attention sur elles-mêmes. Alors ça, c'est la responsabilité. Parfois, on a besoin de dire à certaines femmes, et je ne dis pas publiquement, mais de les attirer à côté pour parler avec eux au sujet de leur habillement. Et s'ils ne se soumettent pas, alors mieux vaut qu'elles ne fréquentent pas que de venir et continuer à perturber, séduire des hommes qui peuvent facilement chuter par leur présence. Alors encore, c'est une responsabilité des dirigeants, des évêques, de l'Assemblée, de prendre la charge. N'importe quelle chose qui peut perturber l'adoration, ça doit être arrêté par les responsables, par les dirigeants. Ils doivent prendre ça en main. Et je ne dirais pas nécessairement publiquement, mais en prenant de tels gens à côté et les instruire davantage, et s'ils écoutent, s'ils se répandent, nous aurons gagné une âme. Le Seigneur aura dirigé pour les instruire davantage. Mais sinon, on doit les encourager à s'en aller et ne pas à continuer à fréquenter et perturber l'Assemblée de cette manière.
Allô? Oui, je crois que vous avez dit l'essentiel et ça fait vraiment rapport à, au flou qui existe aujourd'hui. Parce qu'en réalité, la portalité qui existe aujourd'hui dans le monde, au niveau des églises, des hommes et des femmes, vient du fait que les hommes ont effectivement abandonné cet ordre que Dieu a établi et auquel il soumet son église. Les hommes ont abandonné la foi, ils ont abandonné l'ordre. Et c'est sur ça que je voudrais effectivement attirer notre attention, je dirais un peu, parce que dans le Genèse, par exemple, après que, comme vous venez de dire, Adam a gardé le silence et que Ève a pris la direction, nous constatons heureusement que Dieu, en commençant le bon combat de la foi, a donné l'ordre directement à Satan. Vous voyez, donc nous lisons dans et Genèse 3 là, au verset 14, que le jugement est la promesse de la foi qui s'en est suivie et dont nous gardons l'espérance et la bonne conscience aujourd'hui, comme le dit l'apôtre Saint Timothée, c'est directement adressé d'abord au serpent. Au verset 14 de Genèse 3, on a dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et la promesse de la foi, c'est comme Dieu lui-même a réglé cette affaire pour que la foi, la postérité promise, Jésus-Christ, la tête fédérale, soit toujours respectée, que jamais l'ordre ne soit renversé. Donc je voudrais dire qu'une femme convertie et un homme véritablement converti doivent percevoir Christ par la foi dans l'homme. Et rester effectivement soumis. Puisqu'on dit, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et Dieu a signé cette promesse et cet ordre, n'est-ce pas, en disant à la femme que ses désirs se tourneront toujours vers l'homme, mais il dominera sur toi. Donc, comme Paul le dit dans notre deuxième côté là, la femme se sent aujourd'hui humiliée et d'être mère. Et elle veut toujours être père, mais cela est impossible. Ouais. Et malheureusement aussi, certains hommes, comme l'a dit le frère Ken, on dirait qu'ils se sentent humiliés s'ils ne restent pas soumis à des femmes. Et dans les églises aujourd'hui, on pense que l'église forte, puissante, est celle qui donne toute autorité et tout pouvoir à l'homme. Et s'il y a une apostasie générale qui amène aujourd'hui, malheureusement, les hommes à prôner l'unité entre l'homme et la femme, au-dessus de l'unité entre Christ et son église, et entre Christ et Dieu le Père, qui est la foi que nous combattons. Donc, je voudrais dire qu'on ne doit pas mettre en réalité l'unité, la relation homme et femme, sous le signe de la foi. Parce que la véritable foi, la femme véritablement qui porte, doit rester sous Christ et en se soumettant à l'ordre de la foi qu'il est converti. Et aussi, l'homme aussi doit rester sous Christ, tout comme Christ et Dieu est le chef de Christ. Donc c'est cette harmonie-là qui manque aujourd'hui. On remarque que tout homme confessant la foi aujourd'hui ne voit pas la foi et ne respecte pas la foi, mais plutôt voit la vanité, la poussière, le matériel et veut s'unir avec la femme. Tout comme quand vient de dire, et l'église garde le silence et laisse l'autorité à la femme, et le mari garde le silence et laisse l'autorité à la femme, et la femme maintenant veut jouer le rôle de père en prenant l'autorité, la direction, même dans le foyer, dans l'église. Et on pense qu'on est bien là, pourquoi comme ça? Nous sommes donc appelés réellement à respecter le jugement de Dieu qui interdit toute possibilité d'entendre entre femme et Satan, entre la postérité de la femme qui a dit Christ qui est venu et la postérité de Satan, l'église du mensonge, et maintenant du mensonge qui veut avoir le diable comme père. Donc, c'est un enseignement qui paraît simple mais très important et qui est aujourd'hui. Qui fait aujourd'hui que les hommes sombrent dans l'apostasie et non dans la foi, c'est-à-dire dans l'abandon de la foi en professant simplement la foi.
Je suis d'accord. C'est ça. De la même manière qu'on peut rentrer dans un foyer et voir s'il y a de l'ordre ou non, en regardant les enfants. Si les enfants courent partout et s'amusent et font ce qu'ils veulent et il n'y a aucune discipline, on remarque déjà que bon, c'est le père qui n'est pas en train de prendre la responsabilité pour son foyer.
Voilà, exactement.
Et c'est la même chose dans l'assemblée.
Les enfants sont aujourd'hui respectés plus que la foi et Dieu.
Voilà.
On prend aujourd'hui la femme pour Dieu, les enfants pour Dieu, et même l'homme abandonne sa responsabilité de défendre la foi et de garder la conscience de Dieu.
C'est ça.
Sous la postérité promise. Et effectivement, c'est ça ce que vous venez de souligner. Effectivement, aujourd'hui, on constate en réalité que la foi n'est plus respectée.
C'est dans l'assemblée comme ça, c'est ça.
Chose à plus place. Vraiment.
On n'a pas besoin de s'asseoir longtemps dans une assemblée pour savoir si cette assemblée suit la parole. Parce que quand on rentre, si on voit toutes sortes de désordres, je dirais déjà le problème commence à la tête. Je voudrais savoir qui est responsable ici. Qui est celui qui est le dirigeant? Parce que s'il laisse les choses continuer comme ça, le désordre démontre que cette personne-là n'a aucun respect pour Dieu, pour Christ, pour la parole. Et ne doit pas être à la tête.
C'est justement parce que beaucoup fuient les réactions des gens. Et je peux simplement dire que c'est parce que l'évangile n'est plus prêché. Et pourquoi l'évangile n'est pas prêché? C'est parce que les hommes veulent rivaliser avec cette autorité-là, avec la foi. Et les hommes aujourd'hui se sentent, on dirait, humiliés. Ils prêchent l'évangile, prêchent Christ seul pour la foi des élus. Et on veut aujourd'hui plaire à la femme, plaire à l'homme, plaire aux puissances qui veulent prendre la direction alors qu'ils ne sont pas soumis à Christ. Dans ce passage, vous allez remarquer qu'on a dit que je veux que les hommes prient. Mais il ne faut pas oublier que les hommes efféminés, des hommes qui n'ont pas la foi en Christ et qui ne défendent pas l'évangile, qui ne sont pas spirituels, ils n'ont pas le droit ni de diriger, ni de prendre la parole dans l'église, ni de prier. Mais aujourd'hui, on donne la parole à des hommes qui matériellement sont puissants ou qui peuvent réagir contre la foi, voilà. Et on veut les respecter pour faire taire la foi. Et ensemble aussi, on donne la parole ou la force à ces femmes-là qui prétendent soutenir l'église, mais en réalité veulent prendre le dessus de tout le monde. Finalement, ni l'évangile n'est prêché, ni l'ordre n'est respecté. Ouais. Christ n'est pas perçu et en réalité, le monde entier est sous une tête fédérale. Ce n'est pas le Christ promis qui est venu et que l'on doit et auquel on doit se soumettre dans le vrai et bon combat que la foi, je dis, a déjà commencé par mener dans la promesse que Christ est venu accomplir. Vous allez remarquer que Christ avait dit à Marie, qui a-t-il entre toi et moi? Parce qu'en réalité, on ne doit pas mélanger la relation humaine avec l'autorité établie qui est venue manifester sa réalité au-dessus de l'illusion, le mensonge, le diable. Ainsi, on ne peut pas mélanger la chair et le sang, la poussière qui retourne à la poussière avec son bien et son mal, avec l'autorité établie par le Seigneur qui ordonne à Satan de rester soumis. Même si on fait des souffrances, Jésus-Christ devrait montrer la victoire de la foi et les. Lui, aujourd'hui, n'a pas le droit de fuir la souffrance, de fuir la réaction, de fuir les positions, la séparation, pour s'entendre et sympathiser avec le faux évangile.
Ouais.
Donc aujourd'hui, les gens craignent la persécution en réalité. Et il n'y a plus la prédication de la foi dans l'église. Mais le mariage, la relation entre l'homme et la femme, et des idéologies en réalité qui ne respectent pas la foi. Si c'est comme ça, comment est-ce que l'homme va rester soumis à Christ et la femme rester soumise à l'homme? Absolument pas. Vous voyez? Donc nous remarquons en effet que ce soit enfant, religieux, tout le monde veut une vie à l'aise. Mais Paul a dit quelque chose à la fin de Timothée, là, et il dit quoi? Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est ça la puissance, c'est ça ce qui gêne les femmes. Ils ne veulent pas, ils veulent, leur désir c'est d'être père, d'être homme, d'être Christ même parfois. Lorsqu'ils persévèrent avec modestie dans la foi, en devenant mère et en restant soumise pour recevoir l'instruction, dans la soumission, dans l'ordre, le respect, la discipline, ça les humilie. Et les hommes aussi, pour se plaire, préfèrent abandonner leurs responsabilités.
Oui.
Les responsables de l'Église aussi abandonnent leurs responsabilités.
C'est ça.
Et on veut plaire à tout le monde. Finalement, on constate une fausse église, faux enfants de Dieu et de la fausse profession de foi. Mais c'est vrai pour nous. Heureusement, nous sommes appelés quand même à défendre cette foi, la prêcher. S'il le faut, vivre dans la solitude, mais nous savons que la victoire de la foi est au-dessus, même la mort est au-dessus de nous.
C'est ça.
Et je vous encourage réellement à demeurer parce que c'est dans la persévérance et dans la détermination, avec foi et bonne conscience, que nous pouvons amener les uns et les autres à respecter cet ordre que la foi a établi. Voilà.
Oui, tu as bien souligné, si le fondement est faux, tout le bâtiment sera condamné, c'est ça. Alors, c'est parce que les assemblées sont remplies de gens qui ont été enseignés par un faux prédicateur que la décision dépend d'eux et à eux de prendre le devant, même en s'approchant de Christ et ayant des assemblées remplies de gens qui sont perdus, en quelque sorte, alors le désordre règne. Mais la grâce de Dieu humilie. Et encore, comme je disais au cours de l'enseignement, la même manière que les hommes, les femmes dans l'assemblée doivent garder le silence, c'est ce même silence que Dieu, par sa grâce, donne à chaque pécheur qui lui appartient, de garder le silence et de regarder vers Christ seul, notre tête, notre celui qui est responsable pour notre salut. Et quand on a une assemblée où telle est la base, la suite c'est qu'il y a l'ordre. Où il y a le désordre, c'est parce que c'est basé sur un faux fondement. Et là, il faut simplement que cette organisation disparaisse. On ne peut pas changer ce qui est faux en ce qui est vrai. Mais que le Seigneur vous bénisse. On ne peut jamais complètement approfondir la parole, mais que le Seigneur continue à nous diriger. Et Dieu voulant, nous allons reprendre la prochaine fois. Frère Aurélien, est-ce que tu pourras nous diriger dans la prière pour terminer?
Ok. D'accord. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée d'étudier ensemble la parole. Cette opportunité que tu donnes à tes serviteurs de communiquer à ce monde qui sûrement a abandonné la foi. Nous savons qu'il y a une véritable apostasie qui règne et le véritable combat de la foi tel que tu l'as promis et que Christ nous l'a révélé à travers l'évangile n'est plus. Le résultat est justement que le fondement de la foi est bafoué et la vérité n'est plus prêchée et tout le monde se range derrière le mensonge. Mais nous te remercions parce qu'en Jésus-Christ, tu as une église qui demeure ferme dans la vérité. Nous voulons nous recommander à ta grâce. Donne à chacun et à tes serviteurs de demeurer ferme, quel que soit ce qu'ils vont souffrir. Nous savons que la victoire de la foi nous redonne l'espérance et l'amour que ton esprit fait répandre dans notre cœur. Nous voulons te demander de nous remplir de cette plénitude de Christ pour que dans ce monde, même s'il nous faut nous battre contre le courant, que cette victoire puisse sauver ton peuple à la foi. Amène chacun de nous réellement, tous ceux qui sont des nôtres dans le monde, à se soumettre à toi par l'évangile. Nous nous recommandons à toi et te confions les frères de Malawi qui eux aussi vont méditer ces paroles ensemble. Donne-nous de les garder, de tenir ferme et à tout ton peuple de retourner à cet évangile qui est ta seule gloire. Merci Seigneur, bénis tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen.
Amen.